Le jardin ensorcelé. À présent, il s'agissait de monter à l'assaut de la prison, mais ni Elodie ni Tinky Winky n'avaient la plus petite idée de la façon dont ils allaient s'y prendre. On dirait qu'il n'y a personne, observa le lapin tapi derrière un rocher. Ni sentinelle, ni grille, ni porte verrouillée. On entre là-dedans comme dans un moulin. Curieux, non ? La jeune fille fronça les sourcils. Effectivement, la place semblait abandonnée, ouverte aux quatre vents. Des plantes hirsutes poussaient au milieu des ruines en dépit du bon sens. On eût dit des tignasses de géants aux cheveux hérissés d'épines. « Le damier est là pour défendre les maîtres de la forteresse, dit l'adolescente. C'est sans doute la raison pour laquelle il n'éprouve nul besoin de s'entourer de précautions inutiles. « Tu as raison, fit Tinky Winky. Mais allons-y tout de même sur la pointe des pieds. » Les deux compagnons quittèrent leur observatoire pour escalader le flanc de la colline. Des buissons épineux se dressaient de part et d'autre du chemin. Arrivée à mi-hauteur, Élodie s'arrêta et fronça les sourcils. « Tu n'entends rien ? » murmura-t-elle. « Si, fit le lapin. Des plaintes. Ce sont les prisonniers qui gémissent au fond de leur cachot. « Allons les délivrer, lança la jeune fille. Ils nous aideront dans notre combat contre l'usurpateur. »« Oui, fit le lapin, à condition qu'il ne soit pas en trop mauvais état. » Le château était vraiment délabré. En fait, il avait tout d'une ruine. Un lierre grimpant recouvrait la seule muraille qui tenait encore debout. Élodie et Tinky Winky s'y engagèrent avec prudence, s'attendant à chaque seconde à voir surgir un garde l'épée à la main. Cependant, ils durent bientôt se rendre à l'évidence. Le lieu était désert. Lorsqu'ils se faufilèrent dans les caves à moitié effondrées, ils constatèrent que les anciens cachots étaient vides. « Il n'y a aucun prisonnier ici, » grogna le lapin. « Et il n'y en a pas eu depuis des siècles. Regarde, les écuelles sont remplies de poussière. Les chaînes sont si rouillées qu'elles casseraient comme du verre si on tirait dessus. » « Et pourtant j'entends toujours ces gémissements, » fit remarquer Élodie. « Ce n'est pas normal. D'où ces plaintes proviennent-elles ? Y aurait-il un maléfice là-dessous ? » Ils se dépêchèrent de remonter à l'air libre. Ils se sentaient mal à l'aise car ils craignaient de faire sous peu les frais d'un méchant tour de magie. Les longues oreilles du lapin bougeaient dans toutes les directions, essayant de déterminer la provenance du son. « Hé !» souffla-t-il enfin. « Ça vient de tous les côtés à la fois. Nous sommes entourés de gémissements. « J'espère qu'il ne s'agit pas de fantômes, » chuchota Élodie. « Je n'aimerais pas ça. » Il se sentait un peu idiot, ainsi planté au milieu des ruines. Mais les plaintes étaient réelles et faisaient froid dans le dos. Tout à coup, Élodie fut victime d'une illusion. Elle crut voir le lierre se déplacer d'une trentaine de centimètres sur la muraille. D'abord, elle pensa. C'est le vent qui joue dans les feuilles. Puis, elle vit distinctement les racines de la plante grimpante bouger pour chercher un meilleur appui. Elle n'en crut pas ses yeux. Le lierre rampait comme un lézard à la surface du mur d'enceinte. Il avançait centimètre par centimètre suivant les déplacements du soleil. L'adolescente battit des paupières pour essayer de dissiper le mirage dont elle se croyait victime. Tinky Winky la secoua. « Hé, dit-il, regarde un peu ça. Il y a une étiquette accrochée au pied de chaque buisson d'épines. » Élodie s'agenouilla pour lire le carton le plus proche. « Baron de la pierre blanche, déchiffra-t-elle, incarcéré le 8 mai de l'année du hérisson. Mais je le connais, c'était un ami de mes parents. Et cette date, renchérit le lapin, le 8 mai, c'est celle du coup d'État. Oh, je comprends tout. Les prisonniers ont été transformés en végétaux. Ils sont là tout autour de nous. Ce sont eux qui gémissent. » La jeune fille s'élança, examinant les étiquettes qui l'entouraient. « Duc de Hurlempierre, énumérait-elle. Comtesse de Mataminé. Chevalier de Sabre de Bois. C'étaient des fidèles de mon père. Ils sont tous là. Oncle Borot les a fait arrêter et changer en plantes. « Drôlement malin, » apprécia Tinky Winky. « De cette manière, on ne risquait pas de les voir. Et quel avantage pour leur geôlier! Un buisson, un arbre, ont le plus grand mal à s'enfuir, puisque par définition une plante est enracinée. Mais où sont mes parents? Lança Élodie en se redressant. Sans doute quelque part au milieu de ces buissons d'ortie, suggéra le lapin. Ça ne va pas être facile de les retrouver. Élodie s'élança dans la ronceraie, en dépit des épines qui lui griffaient les mains et les joues. Elle avait réenfilé ses vêtements en loques, mais ceux-ci ne la protégeaient guère. Elle fut vite couverte d'estafilade. « Je ne les vois pas, gémit-elle en courant à quatre pattes d'un buisson à l'autre. « Tous les gens de la cour sont rassemblés ici, mais je ne trouve pas mes parents. »« Reviens, ordonna le lapin, tu vas te faire écorcher vive. »« J'entends du bruit, ça monte des profondeurs de la colline. »« Quelqu'un vient! Dépêche-toi, il faut nous cacher. » Élodie s'extirpa des buissons à regret. Elle avait la figure égratignée et les mains truffées d'épines. « Grimpons dans les ruines, lança Tinky Binky. J'ai l'impression qu'il y a un passage secret sous le château. Quelque chose va en sortir d'une minute à l'autre. Une véritable armée. Tu entends ces piétinements ?» Les deux amis se précipitèrent dans la rocaille entourant les remparts. À peine était-il accroupi à l'ombre des rochers qu'une horde de chèvres rouges jaillit d'on ne sait où. Leur pelage écarlate et leurs cornes dorées leur donnaient une allure démoniaque. On eût dit une armée de diablotins sortis des enfers. Elles se ruèrent sur les buissons d'épines et entreprirent de les dévorer. « Oh ! Halta Élodie, ce sont les chèvres bourreaux. Oncle bourreau en avait parlé. Elles mangent les fidèles de mon père. » « Parle moins fort, souffla Tinky Pinky, ou elles nous dévoreront également. Je dois reconnaître que tu as raison. Elles sont en train de grignoter la noblesse du palais. Je suppose qu'il s'agit d'une torture imaginée par ton cher oncle Boromidas. Chaque jour, les chèvres rouges sortent des profondeurs de la colline et viennent grignoter un petit bout des courtisans fidèles à ton père. C'est comme si on leur boulottait un orteil par-ci, une oreille par-là. Je comprends qu'ils gémissent. Depuis que les chèvres pourpres avaient jailli des entrailles de la terre, les plaintes avaient augmenté. Elles s'élevaient à présent vers le ciel en un concert lugubre. Élodie se boucha les oreilles. Soudain, alors qu'elle se plaquait contre la muraille, elle s'aperçut qu'une étiquette avait été accrochée au lierre grimpant juste au-dessus de sa tête. Incapable de résister à la curiosité, elle se redressa pour la lire. Elle poussa un cri de stupeur. Sur l'affiche s'étalait la mention « Reine Isobel, incarcérée le 8 mai de l'année du hérisson. »« Maman !» hoqueta Élodie. « C'est maman !» Tinky Pinky la força à se rasseoir. « Reste tranquille, gronda-t-il. Par la grande carotte verte, tu veux donc que les chèvres bourreaux te dévorent ?»« Mais c'est ma mère !» bredouilla l'adolescente. « Ils l'ont changée en lierre. » Voilà pourquoi elle bougeait tout à l'heure. Je n'avais pas rêvé. Elle essayait de grimper le plus haut possible pour se mettre hors de portée des chèvres qui doivent venir grignoter ses feuilles. Où se trouve mon père? Elle essaya de se calmer. Tinky Pinky, craignant une attaque des chèvres rouges, avait tiré son sabre à trancher les carottes et se tenait prêt au combat. Toutefois, il doutait d'être capable de repousser la horde cornue et barbichue dont les dents d'acier broutaient les ronces avec un bel entrain. Peu à peu, les biques s'éloignèrent. Certaines mâchonnaient l'herbe du sol dont elles arrachaient de grosses touffes. À chaque morsure, la pelouse poussait des gémissements à fendre l'âme. « Oh ! S'exclama Élodie, tu entends ? Même l'herbe est enchantée. Je me demande s'il ne s'agirait pas de mon père. » Je suis presque certaine qu'oncle Boro a fait transformer ma mère en lierre et mon père en pelouse d'agrément. Bon sang, grogna le lapin, si tu as raison, je me demande comment nous allons nous y prendre pour les sortir d'ici. Je n'avais pas prévu cela. Je pensais qu'ils seraient enchaînés au fond d'un cachot. Ce cochon de Boromidas est plus fort que je ne le croyais. À deux reprises, les biques s'approchèrent de la muraille pour essayer de dévorer le lierre. Mais celui-ci, rampant sur les pierres, s'éleva d'une cinquantaine de centimètres, de manière à se mettre hors de portée de leur redoutable mâchoire hérissée de dents d'acier. Recroquevillé derrière les rochers, l'adolescente et le lapin n'en menaient pas large. Élodie avait la conviction que les méchantes bestioles croqueraient le sable de Tinkimpinky aussi facilement qu'une brindille. Enfin, obéissant à un signal invisible, le troupeau s'éloigna et disparut. « Elles sont retournées dans leur caverne, » souffla le lapin en se redressant. « Je suppose que la colline est creuse et qu'elles habitent dans une grotte en compagnie du magicien jardinier qui a transformé tous ces gens en végétaux. Ne traînons pas ici où il nous arrivera la même chose. On me changera en carotte, toi en buisson de rose, et nous servirons de petit déjeuner à ces sales cabris. » Sitôt sortie de sa cachette, Élodie entreprit de scruter le sol. Elle ne fut pas longue à trouver ce qu'elle cherchait. Une étiquette avait été attachée à une touffe d'herbe. Elle indiquait « Roi Miraflore IV, incarcéré le 8 mai. » « Papa, » murmura l'adolescente, « nous sommes en train de lui marcher sur le dos. On l'a transformé en pelouse. C'est lui qui entoure le château. » Elle s'agenouilla et promena ses doigts dans l'herbe à la recherche d'une jointure. « Regarde, » lança-t-elle à Tinkimpinky, « c'est du gazon. On peut le rouler comme une moquette. Il n'est pas enraciné dans la terre. » « Ça fera un sacré rouleau si on doit le porter sur notre dos, » grommela le lapin. « Nous voilà dans un beau pétrin. La reine rampe sur un mur et le roi se traîne à nos pieds. Comment faire pour les récupérer ?»« Demandons conseil à Thierry, » suggéra la jeune fille. « Il aura bien une idée. » Elle se frotta l'épaule pour faire apparaître le jeune chevalier. Dès que Thierry de Montpéril se matérialisa, elle le mit au courant du développement des événements. Le garçon se gratta la tête, soucieux. « Voilà qui n'est pas très encourageant, avoua-t-il. J'ai entendu parler de ce genre de maléfice. Il y a fort à parier que ni le roi ni la reine n'en sortiront indemnes. Depuis 6 mois que les chèvres les grignotent, ils ont sûrement subi de graves préjudices. « Comment cela ?» gémit Élodie. Thierry eut un geste embarrassé. « Oh » fit-il, « c'est facile à comprendre, votre Altesse. Une touffe d'herbe par-ci, une feuille de lierre par-là. Je pense que vos augustes parents, s'ils recouvrent leur apparence humaine, seront quelque peu diminués. Il est possible que le roi n'ait plus d'oreilles, plus de cheveux et encore moins d'orteils. Même chose en ce qui concerne Sa Majesté la Reine. Ce que les chèvres ont mangé est bel et bien perdu. « Quelle horreur !» s'éclama la jeune fille. « D'accord, » intervint Tinkimpinky qui s'impatientait. « Ce sont des détails qui ont leur importance, mais des détails tout de même. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment nous allons nous y prendre pour les sortir d'ici. Le gazon et le lierre, même roulés et bien empaquetés, ça reste sacrément encombrant. « Il faudrait mettre la main sur le contrepoison, » suggéra Thierry. « Nous pourrions descendre dans la caverne du magicien et nous emparer de la fiole adéquate. De cette façon, il nous serait possible de rendre à nos chers souverains leur forme originelle. Les oreilles en moins, toutefois. « Oui, bien sûr, » marmonna le lapin, « mais je n'aime pas trop l'idée d'affronter ces chèvres à dents d'acier. »« Je vous aiderai, » décida Thierry en posant la main sur le pommeau de son épée. « Ma vie appartient à mon roi. Mourir pour lui sera un honneur, même si c'est en trucidant des biques. » Élodie jugea plus prudent de décrocher le lierre de la muraille, car, en redevenant humaine, sa mère risquait de succomber à une crise de vertige et de se rompre le cou en tombant du haut des créneaux. Tinkimpinky et Thierry l'aidèrent. Ce ne fut pas une mince affaire de détacher la plante de la paroi où elle se cramponnait avec véhémence. « Maman, lui chuchotait Élodie, c'est pour votre bien. » Au bout de 3 longues heures, ils réussirent enfin à rouler le lierre sur lui-même, de manière à former une sorte de paquet sur lequel ils posèrent de grosses pierres pour l'empêcher de fuir, car ils s'étaient rendu compte que la plante s'obstinait à vouloir regagner le mur dès qu'ils avaient le dos tourné. Sous la conduite de Thierry, ils explorèrent la colline et ne tardèrent pas à découvrir l'entrée de la caverne où s'étaient engouffrées les chèvres rouges. L'épée au poing, le jeune chevalier et le lapin s'y engagèrent. Élodie fermait la marche, une torche à la main, prête à enflammer la barbiche des chèvres bourreaux si celles-ci passaient à l'attaque. Heureusement, les affreuses bestioles se trouvaient pour l'heure bouclées dans un enclos aux barreaux de bronze. Le magicien jardinier dormait dans un hamac. C'était un vieil homme à la barbe blanche. Les parois de la caverne étaient tapissées d'étagères supportant des fioles et des bocaux, emplis de poudre, de liqueurs au nom imprononçable. Les trois amis les passèrent en revue. Les chèvres poussèrent des grondements pour alerter leur maître. Leurs dents d'acier grincèrent en produisant des étincelles. Le vieillard se dressa sur sa couche, aussitôt Thierry bondit et posa la pointe de son épée sur la gorge du magicien. « Vite » cria-t-il, « le contrepoison qui désenvoûtera le roi et la reine. Bouche tes fesses, ou tu seras mort dans 3 secondes. » Mal réveillé, le bonhomme se mit à trembler de frayeur. Élodie promena la torche enflammée sous le nez des chèvres rouges pour les tenir en respect, car elles essayaient déjà de sauter par-dessus la barrière de l'enclos pour se porter au secours de leur maître. « Là, dit le magicien, le flacon de pierre grise. Ne me tuez pas, par pitié, je suis un pauvre homme. Je ne fais qu'obéir aux ordres de notre bon roi, Boromidas Ier. Chien, puan, hurla Tinky Pinky, il n'y a qu'un seul roi, Miraflore IV. Tu mériterais que je te coupe en deux comme une vulgaire carotte verte. » Pendant que le Thierry et le lapin rivalisaient en malédictions et injures diverses, sport cher au garçon, Élodie avait rapidement exploré la caverne. Elle comprit que la grotte se prolongeait par un tunnel qui, de toute évidence, serpentait sous le damier infernal. « Oh oh » s'exclama-t-elle. « Voilà comment oncle Bourreau et ses soldats sont venus et repartis. Ils n'ont pas marché sur le damier, non. Ils sont passés par ce souterrain, évitant ainsi les pièges des cases ensorcelées. « Voilà une sacrée découverte, » observa Tinky Binky. « Grâce à toi, nous allons pouvoir ficher le camp sans courir le moindre risque. » Thierry ayant ficelé le magicien, les trois amis sortirent de la caverne pour aller asperger la boule de lierre et le rouleau de gazon avec le contenu du flacon récupéré dans le laboratoire de l'affreux bonhomme. Dommage qu'il n'y en ait pas assez pour désenvoûter les buissons d'épines, fit tristement l'adolescente. Nous allons être forcés de les laisser ici. Nous reviendrons, promit le lapin. Maintenant que nous avons récupéré le roi et la reine, la révolte va s'organiser. Nous lèverons une armée pour déclarer la guerre à l'usurpateur. Une fumée âcre monta des végétaux aspergés. Élodie fut prise d'une canne de toux. Quand le brouillard se dissipa, le roi Miraflore et la reine Isobel se tenaient allongés sur le sol, roulant des yeux ébahis. « Mon père !» cria Élodie, « ma mère !» Mais les deux adultes ne semblaient pas la reconnaître. Le roi n'avait plus un cheveu sur le crâne, car les chèvres les lui avaient tous mangés. Il lui manquait également l'oreille gauche, le nez, 5 orteils et demi et le pouce de la main droite. La reine, elle, était intacte, mais elle s'obstinait à ramper sur le sol, comme si elle voulait regagner le mur d'où on avait eu tant de mal à la décrocher. « Bon, soupira Thierry, ne nous affolons pas. Leur esprit est encore un peu confus, mais je suppose que ça s'arrangera. Et puis, il y a des magiciens à la cour, ils se chargeront de réparer ça. Je vous propose de lever le camp sans attendre, dit Tinky Winky. Il ne faudrait pas que les chèvres sortent de l'enclos et nous attaquent. Engouffrons-nous dans le tunnel et passons sans plus attendre sous le damier. » Ayant réussi à convaincre le roi et la reine de se mettre debout, ils coururent à la caverne et firent comme ils en avaient décidé. Les chèvres bourreaux, folles de rage, les regardèrent passer en grinçant des dents. Sans la présence des barreaux de bronze qui les retenaient prisonnières, elles se seraient jetées sur les fuyards pour les mettre en pièces.